Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve sur la chaîne Basket Session, le rendez-vous habituel, le rendez-vous quotidien du matin où on va décrypter les matchs de la nuit. Shai, avec quelques matchs au programme, je te propose qu'on commence par la très belle victoire des Bucks contre le Thunder. C'était un peu l'affiche de la nuit entre la deuxième meilleure équipe de l'Ouest et la deuxième meilleure équipe de l'Est en termes de bilan. Et il n'y a pas eu vraiment photo, victoire de Milwaukee assez nette, 118-93, performance impressionnante de Giannis Antetokounmpo et de ses coéquipiers, 30 points, 19 rebonds pour Giannis, un triple double pour Chris Middleton, 11 points, 10 rebonds, 10 passes.
Ouais, ça ressemble à la meilleure version possible des Bucks qu'on n'a pas pu voir vraiment cette année. Tout le monde était là, enfin, l'équipe était au complet, ça a bien défendu, parce que c'est le projet à chaque fois de Doc Rivers depuis son arrivée, c'était de faire en sorte que l'équipe défende bien et fort contre un adversaire de très très haut niveau. Middleton, qui est le chaînon manquant un peu depuis le début de la saison parce qu'il a manqué beaucoup de matchs, ils ont tout réussi en fait. Hein. Giannis a fait un très gros match, comme tu le disais. En face, ils ont limité OKC dans tous les sens du terme. C'est le plus faible nombre de points marqués pour le Thunder cette année et c'est leur pire adresse aussi. Donc Milwaukee a tout réussi en se rendant la vie facile parce qu'ils n'ont pas eu à tirer sur la corde au niveau des cadres sur le temps de jeu. Ça ressemble à un petit match référence. J'aime bien trouver des matchs références par-ci par-là dans la saison. C'est encore plus intéressant quand ça arrive le 25 mars et qu'en plus, ça, c'est sur un match qui te permet à la fois de prendre confiance contre un adversaire qui est quand même fort depuis le début de la saison et de prendre sans doute définitivement la deuxième place. Parce que là, il y a un écart qui est fait avec Cleveland maintenant. Donc, on en parle tout le temps, mais là, c'est définitivement. Je pense que la deuxième place est acquise. Donc, super, super soirée pour super nuit pour Milwaukee.
Ouais, je suis d'accord sur cette idée de match référence. J'ai trouvé que sur ce match-là, alors évidemment, c'est le constat d'un match, mais sur ce match-là, Milwaukee était plus proche de Boston que n'importe quelle équipe à l'Est derrière elle, en fait. Que c'était que là, sur cette rencontre, Milwaukee était dans la catégorie des vrais favoris au titre et pas forcément des outsiders de l'Est, comme on peut parfois le dire, en fond. Bah parce que ça reflète le classement actuel. Milwaukee, en termes de victoire, est plus proche de Cleveland et d'autres équipes derrière elle que de Boston. Et là, sur ce match, il y avait vraiment quelque chose. Il y avait de l'intensité, il y avait de la circulation de balles en attaque, il y avait de l'implication défensive. Damien Lillard aussi, d'ailleurs. Ouais. Il y a longtemps que je n'avais pas vu Damien Lillard défendre comme ça sur Shea par moment. Clairement, il l'a tenu. Il y avait Bobby Portis, c'est un excellent joueur de basket, bon, ça on le sait. C'est marrant parce que pendant le match, moi, j'ai regardé que la première mi-temps. Mais déjà sur la première mi-temps qui était très serrée, il y avait 1-2 points d'écart. Hein, je me disais, mais c'est impossible que Milwaukee perde en fait. Ils sont vraiment en contrôle total de ce match malgré ce que l'écart laisse penser, 1-2 points. Et au final, je n'étais pas surpris ce matin en voyant qu'ils avaient gagné de 25 en me réveillant. Voilà, c'est en deuxième mi-temps vraiment qu'ils ont accéléré. Mais déjà dès sur la première mi-temps, donc je n'ai même pas vu le meilleur passage des Bucks et je me disais, c'est vraiment une très belle équipe des Bucks.
Ouais, c'est impressionnant.
Qui est en train de jouer là. Il y a un moment où, tu sais, Bobby Portis, il fait tout small à Chet. Et c'est tu vois, je pense que c'est un des rares adversaires d'OKC où tu as effectivement cette impression. Giannis, tu avais l'impression que c'était un géant au milieu du Thunder. Le Thunder a de la taille, hein, mais un peu moins dans la raquette, mais dans l'ensemble, il y a de la taille au Thunder. Mais les Bucks donnaient l'impression d'être vraiment plus grands, plus puissants.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et je reviens à ce moment où ils sont enfin au complet, où on se pose pas de questions sur qui va manquer le prochain. Ils ont l'air d'être bien tous dans leur tête au bon moment. Et c'est important d'avoir réussir à limiter Shai Gilgeous-Alexander. 12 points en 30 minutes, je sais plus si on l'a dit, mais 12 points seulement pour lui en 30 minutes. Donc c'est pas comme s'il avait joué un quart d'heure. Et c'est tellement devenu un métronome que c'est rare de réussir à limiter un joueur comme ça. Donc il y a eu tout à cliquer défensivement. Tout a cliqué en attaque, c'est aussi lié à, t'as raison, cette impression de taille, d'envergure que peu d'équipes arrivent à dégager. Bah, quand tu vois Holmgren, c'est sûr que d'habitude, il a plutôt l'avantage sur ce côté-là. Et là, dans ce match-là, ouais, les Bucks ont semblé vraiment supérieurs. Alors, est-ce que je disais que ça pouvait être un match sans d'OKC, hein, qu'enchaîne, voilà, c'est, le calendrier n'est pas simple, mais je pense par quoi je pense vraiment que c'est plutôt un match référence du côté de Milwaukee. Et si Milwaukee doit montrer son meilleur visage en playoff, ce sera celui-là, ce sera des matchs de ce calibre-là, je pense.
Pour le Thunder, je ne me souviens plus contre quel adversaire, mais je me souviens d'un CQFR où j'avais dit « Ah bah c'est comme ça, il faut que les équipes regardent et prennent note, c'est comme ça qu'il faut défendre sur Shai Gilgeous-Alexander. Ouais. » Je pourrais refaire la même chose après ce match, c'est que j'ai trouvé que les Bucks… Alors, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont pouvoir autant limiter Shai parce qu'il faut de la taille, encore une fois. Et Milwaukee est quand même une des 5 meilleures équipes de la Ligue et sans doute pas la 5e, donc ce n'est pas comme si tout le monde allait être capable de faire ça. Mais il y a, en étant agressif, en recouvrant, en laissant effectivement, en fermant la raquette, mais tout en recouvrant rapidement sur des shooters à 3 points. Donc, pour ça, pareil, il faut de la taille et de l'implication, etc. Il faut des joueurs assez grands, avec des longs bras, qui viennent vite contester les tirs. Le Thunder se retrouve sans solution, en fait. Et moi, je ne trouve pas que ce soit, par exemple... Alors, c'est qu'un match, ce n'est pas non plus, comme tu l'as dit, il y a le calendrier, etc. Je ne pense pas que ce soit... Il n'y a pas besoin de sonner l'alarme pour le Thunder, loin de là. Mais je ne pense pas non plus que ce soit un accident. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un soir où ça a manqué d'adresse. Parce qu'effectivement, ils tirent à 37% et 23% à 3 points. C'est qu'en fait, ils n'ont pas eu d'autre solution que de balancer des 3 points parce qu'ils ne pouvaient pas mettre leur jeu en place. Chet Holmgren, il est grand, mais il n'avait pas la puissance physique pour imposer son jeu. Chez Gildus Alexander, tu l'as dit, limité à 12 points parce qu'il ne pouvait rien faire d'autre. Et du coup, ça jouait beaucoup en périphérie, sans vraies autres possibilités, et à prendre des tirs à 3 points qui deviennent de suite plus compliqués, même si semi-ouverts, parce qu'ils sont juste le résultat de passes le long de la ligne à 3 points. Et bah, du coup, ça donne du 10 sur 43. Et
les futurs adversaires du Thunder vont prendre ça en modèle.
C'est ce que je disais à Théo, c'est que j'imagine que les staffs regardent parce qu'il y a un vrai, et c'est pas le seul match. Je me souviens de m'être déjà fait cette remarque dans ma tête. Il y a un vrai schéma qui gêne le Thunder. Après, je pense vraiment pas que ce soit toutes les équipes qui soient capables de le mettre en place, mais il y a quelque chose à retenir en vue des playoffs pour affronter OKC.
Ouais, et on peut souligner aussi que du coup. Sans jouer, Denver reprend la première place de la conférence Ouest.
Ouais.
Et bon, ça va encore continuer. Enfin, ça va être serré encore jusqu'au bout, je pense, parce que les écarts sont minimes avec OKC et Minnesota, mais c'est notable. Sans jouer, les Nuggets prennent le contrôle.
Pareil, je pense qu'il n'y a pas un grand calcul à faire, mais mine de rien, la première place, elle peut être quand même importante pour OKC, parce que a priori, je pense que tu peux jouer un adversaire. Alors, tu peux pas faire le calcul de suite, mais tu peux jouer un adversaire un peu plus faible. Comment dire, si Phoenix ou Dallas termine 7e, c'est quand même, ça m'impressionne plus en termes de match-up que de jouer les Lakers ou les Warriors, tu vois. Ou même les Kings. Mais bon, là on est dans le calcul, c'est encore loin, il reste encore une dizaine de matchs. Ouais. Mais je pense que cette première place peut être plus importante pour OKC en tout cas que pour Denver. Denver, je pense, peut arriver au stade de se dire, quel que soit l'adversaire,
c'est clair.
Ok, si, c'est peut-être un peu plus délicat. On peut passer à la performance individuelle de la nuit, celle de Zion Williamson. Zion et les Pelicans. Alors, les Pelicans jouaient contre les Pistons. Ce n'est pas le match-up le plus compliqué. Ils ont fait le job, mais Zion, impressionnant, sans Ingram, 36 points, 7 rebonds, 6 passes, et surtout 13 sur 14 de tir, en fait. Il a rien raté. Il n'y a personne pour l'arrêter du côté des Pistons.
Ouais, il leur a roulé dessus dans un match pourtant où... Ou Trey Murphy shoot à 1 sur 12. Enfin, ils avaient besoin d'un Zion qui est en mode autobus. Et là, il a été parfait dans ce registre-là. Continue de délivrer des passes décisives aussi. Enfin, j'aime beaucoup le Zion, le Zion de cette année 2024. Et on sait qu'on peut en attendre encore peut-être un peu plus. Et on veut le voir dans un contexte de play-off parce qu'on ne l'a toujours pas vraiment vu dans ce contexte-là. Mais les Pelicans qui mettent vraiment la pression. Là, c'était un match évidemment plus qu'à leur portée. Hein, les Pistons, logique en fin de saison. Mais ils continuent. Ils sont sur. Vraiment sur un run intéressant pour mettre la pression sur les Clippers. Et Zion est évidemment responsable de ça. Je ne sais même pas si on avait parlé du fait de cette rumeur ou information que Zion ait perdu 11 kilos depuis le fameux in-season tournament où il avait pris super cher, où les critiques disaient qu'il avait l'air totalement hors de forme, essoufflé et compagnie. Alors qu'il ait perdu du poids ou non, peu importe, hein, ou qu'il soit... Je ne sais pas s'il a fait un truc en particulier, peu importe, mais il est clairement sur un niveau qui est très, très, très intéressant. Là, c'est le niveau All-Star qu'il a pas, il a pas été All-Star en Zion Stan, si je ne dis pas de bêtises.
Je ne pense pas.
Je ne crois pas. Hein. Mais là, il a un niveau de star, de All-Star, tout ce que tu veux. Il est excellent, tout simplement.
Non, c'est clair. Bah, c'est... De toute façon, les Pelicans reviennent à un match, hein, comme tu l'as dit. Tu parlais de l'écart avec les Clippers. On peut enchaîner avec les Clippers. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire sur Detroit. Ouais. Si ce n'est que James Wiseman, je trouve, joue beaucoup plus dans la peinture qu'à une époque. Voilà. C'est une petite remarque au passage.
L'âge de la maturité, ça y est.
Ouais, et c'est en mode dominé dessous. Bon, après, il s'est fait rouler dessus par Zion comme les autres. Et sinon, 0 sur 5 au tir pour Evan Fournier. Il a joué 10 minutes. Il a arrosé dès son entrée sur le terrain. Au final, il n'est pas resté.
Il y a un seul joueur que j'ai vu gêner Zion récemment. Enfin, je parle vraiment gêné, hein, où Zion a dû s'employer parce que sinon, il fait des matchs tellement propres et efficaces. C'est Jonathan Isaac. Voilà. On en reparlera un moment.
Qui est un des meilleurs défenseurs de la Ligue. Très clairement.
Non, mais il est totalement flippant. Là, pour regarder vraiment beaucoup le Magic sur des très courtes périodes, il est invraisemblable. De son niveau défensif, il est...
La longueur de ses bras, son envergure, ses qualités athlétiques. C'est quand même un joueur. On comprend en fait pourquoi il a été drafté 4 ou 6, je me souviens
Six,
plus.
ouais.
6, ouais. Mais tu comprends quel était le potentiel et quelle était la vision du Magic en fait,
Bah,
quand
ouais,
tu vois un
s'il n'est
peu
pas
ce.
blessé, s'il se blesse pas tout le temps, après les trucs extra-sportifs qu'on a évoqués la dernière fois, au final, moi je pensais que ça poserait problème, mais finalement les mecs ont l'air de. Ça n'a pas l'air de poser problème à ses coéquipiers. Donc c'est que c'est très bien, il n'y a pas de souci. Et il est excellent. Enfin, je pense pas qu'il sera dans une all-defensive team parce qu'il a manqué encore pas mal de matchs et son temps de jeu est limité, mais juste ouais, ne serait-ce que le potentiel, tu dis si ce mec-là un jour il arrive à tenir 30 minutes par match sur une saison, c'est foutu quoi. C'est foutu pour l'équipe adverse. C'est déjà une équipe qui est bonne défensivement, mais bon, et là on est en train de parler du Magic qui a même pas joué cette nuit, on va m'accuser de
Ah non, mais
propagande, mais.
c'est très intéressant. C'est très bien souligné et tu as raison. Jonathan Isaac fait vraiment une super saison quand il est là. Et d'ailleurs, j'ai pas son net rating, mais quand il est là, ça donne vraiment l'impression quand il joue qu'Orlando a un step en plus en fait.
Même en plus-minus, hein, ils ont perdu l'autre jour contre les Kings, il était à plus 26, quoi.
Ouais, bah, j'irai regarder son net rating, mais je serais pas surpris que ça soit très positif. On peut passer, donc on a dit les Clippers, on va enchaîner la logique des choses. Donc les Pelicans reviennent à un match des Clippers parce que les Clippers ont perdu, franchement, un match contre les Sixers. Il y a du talent du côté de Philly, on est d'accord, mais les Clippers semi au complet, il manque toujours Westbrook, ont donc perdu 121-107 à domicile contre Philly. Et ce serait une défaite au milieu d'une belle période, tu
Ouais, ce
vois,
serait
ça
anecdotique,
pourrait
mais là.
passer. Mais les Clippers, il y a un vrai. Depuis la blessure de Westbrook, en fait. Depuis que Westbrook n'est pas là,
Y a un
il y
coup de
a.
mou.
Bah, d'un coup, ils sont mous, ouais, voilà, c'est ça. Et il y a plus ce dynamisme, et c'est fou comment ça change. Alors, c'est aussi peut-être la période de la saison, il y a plusieurs choses, hein, mais ces Clippers sont nettement moins intéressants et impressionnants qu'il y a quelques semaines, quoi.
La bonne nouvelle, c'est que Westbrook revient bientôt, par contre. Donc ça,
Ouais, Westbrook
si c'est
revient cette
vraiment ça
semaine.
qui les a fait, qui a provoqué ce coup de mou, il revient très bientôt. Et ce match, ouais, alors t'as raison, Philadelphie, il y a des talents offensifs. Tyrese Maxey, 24 points, Tobias Harris aussi. Bon, Théo va apprécier la perf de Campaign en sortie de banc, 23 points.
Ah, mais quand
Dont
c'est
il aime bien souligner les.
Campaign qui
Voilà.
vient de taffer, c'est qu'il y a un problème, quoi.
Ouais, mais non, mais il y a un problème de. Ils sont pas efficaces en défense, ils prennent 121 points, c'est un peu terne en attaque. Il manque quelque chose, il y a le Big Three, normalement, ça doit. Enfin, tu te dis, t'as Kawhi, Paul George, James Harden. Normalement, ça fait le job autour. L'équipe, c'est pas des peintres, hein, c'est plutôt une équipe bien constituée, même avec
Ouais,
des absents.
Zubac est revenu et tout.
Ouais, il y a un petit. Et tu sais, ça me fait penser à. J'avais trouvé bizarre la sortie de Paul George qui avait parlé du fait qu'ils aillent chercher leur identité un peu, alors que je m'étais dit, non, mais ça y est, on a compris, cette équipe, elle tourne bien. Et il y a quelques jours, hein, il avait parlé d'une quête d'identité qu'ils avaient du mal à se trouver. J'avais trouvé ça un peu prématuré comme constat, mais visiblement, il y a peut-être quelque chose. Donc, bon, ils vont se qualifier pour les playoffs, il n'y a pas de souci, mais tu perds l'avantage, tu peux peut-être perdre l'avantage du terrain si New Orleans finit bien la saison et que toi, tu la finis pas bien. Et c'est pas anecdotique.
Ouais, puis tu n'arrives pas en confiance. Et c'est toujours un peu cette question de qui va prendre les gars et va leur dire hey, les gars, maintenant, ça y est, les playoffs ont commencé, on se remet dedans, tu vois. On sait que ce n'est pas Harden, on sait que ce n'est pas Paul George.
C'est aucun des trois, hein, je pense.
Ouais, on ne sait pas trop, mais de principe, on dirait que sur son caractère, on va dire non. Le leader, c'est Tyronn Lue. Ça n'a pas toujours la même portée. Après, il y a Westbrook, mais enfin, y a pas. Le seul qui a gagné un titre dans cette équipe, c'est Kawhi. En tout cas, parmi les stars, hein. Je ne sais pas s'ils ont un autre champion NBA, Norman Powell est champion NBA, je pense,
Ouais, pas avec
avec les
Toronto, ouais.
Raptors. Mais donc, le seul qui a un titre, en tout cas parmi les stars, c'est Kawhi Leonard. Est-ce qu'il va remobiliser cette équipe? Mais en tout cas, cette équipe a besoin d'être remobilisée dans les prochains jours, parce que bon, les playoffs approchent, quoi. Mais et oui, parmi les champions, il y a aussi évidemment le coach. Le coach Tyronn Lue a déjà gagné un titre. Mais de toute façon, je pense que c'est leur leader de vestiaire. Mais bon, on
Ouais.
verra ce que ça donne. Autre match, victoire de Minnesota contre Golden State, 114-110. Les Timberwolves qui sont revenus sur la fin en deuxième mi-temps. Hein, ils étaient menés en première mi-temps. Ils ont été même menés jusqu'à 13 points d'écart. Les Warriors étaient au contrôle. Stephen Curry a été reposé pendant une partie de la seconde période.
Mauvais
Et
choix.
bah ouais, mauvais choix.
Mauvaise
Alors
décision.
Steve Kerr s'en est défendu, mais. Derrière, ça donne une défaite des Warriors alors que la victoire était clairement à leur portée. Ils dominaient les Timberwolves. Dominaient est peut-être un mot un peu fort, mais ils étaient vraiment au contrôle du match zappais aussi de temps en temps sur ce match-là pendant les temps morts de Milwaukee. Et ils avaient l'air bien, les Warriors. Tout ça pour perdre au final, malgré 31 points de Curry, mais en 30 minutes. Et en face, 20 points de Nasrid, 17 points, 12 rebonds pour Rudy Gobert, 23 points pour Anthony Edwards et victoire des Timberwolves.
Nasrid, il est surprenant quand même. Enfin, surprenant. Ouais. On savait le joueur d'impact que c'était. Le contrat, c'était un bon deal pour eux. Et il fait 6 sur 8 à 3 points ce soir. C'est-à-dire que c'est un très bon joueur près du cercle. Il a une grosse activité. Et en plus, il a ce shoot qui lui permet de pas être ignoré à longue distance. Et c'est à 3 points aussi qu'ils ont fait la différence, les Wolves. Hein. C'est leur meilleur match à 3 points de la saison contre les Warriors, ce qui est un peu ironique. Et cette avance, je repensais au déclat de LeBron l'autre jour sur le fait que Curry avait fait en sorte que maintenant il n'y avait plus aucune avance au score qui était safe. Bah là, voilà, Curry est sorti, et leur avance a fondu comme neige au soleil et les Wolves ont emporté. Rudy Gobert double-double encore. Anthony Edwards, 23 points, mais assez clutch sur la ligne sur la fin. Il en met 3 sur 4. Il met 3 lancers sur 4 à la fin.
8 passes aussi.
Et Curry a manqué, il a manqué un shoot important à la fin, un truc qu'il aurait mis. T'as l'impression qu'il le met tous les jours et ça permettait d'égaliser, mais c'est pas rentré. Et du coup, c'est vraiment mauvaise opération pour les Warriors. C'est pas que c'était un match à gagner forcément, parce que Minnesota est une grosse équipe, mais ils avaient, voilà, le scénario du match fait qu'ils auraient pu ou dû le gagner. Et au classement, c'est un peu catastrophique pour eux.
C'est ça, vu qu'il n'y a plus qu'un match d'écart avec Houston. Et du coup, d'un coup, tu te retrouves à redevoir enclencher un espèce de panic mode. Houston, les Rockets sont sur une super série, donc en pleine confiance. Et là, ils peuvent se dire, ah ben, on peut vraiment y croire. Les Warriors vont commencer à paniquer, à se dire, faut pas perdre des matchs. Alors, bon, ils ont de l'expérience. Hein. Quand je dis paniquer, ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont lâcher ou qui vont craquer, mais il y aura ce sentiment d'urgence, en tout cas, de devoir gagner. Et le prochain match, en plus, c'est contre Miami, donc pas n'importe quel adversaire.
Et la 9e place est flinguée, hein, maintenant. Enfin, c'est compliqué avec les Lakers qui gagnent. Ouais. Ça me paraît difficile. Ils ont un petit peu de retard. La dynamique est pas bonne. Donc là, les Warriors, la fin de saison, c'est pour survivre, quoi. C'est accrocher la 10e place contre une équipe ce sera pas un échec pour les Rockets s'ils accrochent pas la 10e place, donc ils sont totalement décomplexés. Jalen Green qui marche sur l'eau, parce que alors c'était samedi, donc on n'a pas parlé, mais il a remis 41 points, le bougre.
Ouais, juste après ses 42, là, il a mis 42.
Il est super chaud. Je t'ai dit, depuis que j'ai dit qu'il était irrégulier et que je croyais pas vraiment en lui, et que Alperen Şengün est blessé, il est incroyable. Hein. Mais bon, tout ça pour dire que les Warriors, voilà, plus qu'une seule victoire d'avance sur Houston, il reste 12 matchs. Ils peuvent jouer quasiment que pour la 10e, ce qui est un peu triste et inquiétant pour un gros, gros run en playoff. On a déjà vu des équipes le faire, mais ça ne va pas être simple.
Non, c'est clair, encore moins à l'ouest. Du coup, les Lakers, tu en as parlé, victoire contre les Pacers, 150 à 145. Personne n'avait envie de défendre. Match très, très, très offensif. 36 points, 16 rebonds pour Anthony Davis, 26 ouais. points, 10 passes pour LeBron James, 25 points pour Austin Reaves avec 8 passes aussi, et 26 points pour Spencer Dinwiddie qui prenait la place de D'Angelo Russell dans le 5. Et pour le coup, Dinwiddie, 26 points, je ne sais pas quand est-ce que c'était la dernière fois qu'il a mis 26 points. Mais voilà, victoire des Lakers, les Lakers qui ont tenu, qui ont résisté au comeback des Pacers de Siakam. Siakam met 36 points, je crois aussi. Ouais, et voilà, Los Angeles qui...
Enfin, ils sont fait un peu peur, ils étaient à plus 17 au début du quatrième. Haliburton a fait un joli coup de chaud. Les Pacers reviennent à 3 points et derrière ils arrivent à finir le job. Mais je lisais que c'était la première fois depuis 3 ans qu'il y a 4 joueurs d'une même équipe qui marquaient 25 points. Les Lakers ont eu ça parce que Austin Reaves aussi fait un bon match. Et offensivement, il n'y a pas eu de souci, hein, mais ça fait toujours bizarre de voir des matchs de saison régulière sans prolongation et à finir à 150-145, ça rassure pas sur la défense des Pacers et en vue d'éventuel d'un play-in. Et les Lakers, s'ils peuvent éviter de prendre 145 points en play-off ou en play-in, c'est bien aussi quand même.
Quand je parle avec certains amis à moi des Lakers, c'est de pourquoi je les imagine pas reproduire de l'an dernier justement cette défense. C'était avant même qu'ils prennent 145 points. Hein. Je trouve que les Lakers sont pas la défense d'une équipe de playoff. Il y a du talent, c'est évident. Il y a LeBron James, il y a Anthony Davis. Mais défensivement, dans cette conférence, tu peux pas avoir ce niveau défensif. Et encore une fois, je ne parle même pas de ce match contre les Pacers où ils prennent 145 points. C'est vraiment un constat global sur la saison. Tu ne peux pas avoir ce niveau défensif et espérer.
Davis, c'est l'arbre qui cache la forêt, quoi.
Oui, voilà, c'est ça. C'est terrible, c'est catastrophique. Le backcourt est très mauvais défensivement. LeBron James défend plus. C'est vraiment compliqué défensivement. Allez, on peut passer au dernier match de la soirée. C'était la victoire très, très large de Miami contre Cleveland. Miami qui a déroulé complètement. Victoire 121-84. Il y avait déjà, il y avait déjà 40 points d'avance. Hein.
45, ils ont fait plus 45. Ouais, à un moment, c'est leur plus grosse avance depuis 10 ans. Plus de 10 ans pour Miami dans un match.
Il manquait Donovan Mitchell et Max Truss toujours du côté des Cavaliers, mais quand même, c'était un semi-choc. Et Miami a vraiment fait forte impression avec plein de joueurs qui mettent plus de 10 points et pas eu besoin de forcer leur talent. Bam Adebayo, 15 points, 16 rebonds, 5 interceptions, 18 points pour Ewood et Smith, 59 points du banc, je crois.
Ouais, 7 joueurs à 10 points ou plus, bon, ils leur ont roulé dessus, quoi. Avec 45 points d'avance à un moment du match, ça c'est un peu. L'addition était un tout petit peu moins salée à la fin, mais. Bon, c'est pas un scandale de perdre contre Miami sans Donovan Mitchell avec tous les pépins qu'ils ont eu cette saison, mais on parlait de Cleveland dans la lutte pour la deuxième place. Là, ça commence même à pousser derrière. Leur troisième place n'est pas du tout safe parce que les Knicks et le Magic sont qu'à une victoire derrière. Donc, la fin de saison, je voyais sur le compte français des Cavs sur Twitter, le pessimisme est de mise. Il sent que la fin de saison va être un peu compliquée, que l'avantage du terrain est en péril. Enfin, moi, je reste assez admiratif d'une équipe qui a serré les dents et courbé les chines toute la saison malgré les difficultés. Ils se sont accrochés. Et là, il y a une forme de logique aussi. Quand tu as autant de galères, c'est pas anormal d'en être là. Mais ouais, la deuxième place, c'est fini. Et la troisième place, il va falloir cravacher pour la conserver.
Surtout que là, en plus, pour le coup, Miami est quand même une équipe qui a une vraie chance de finir sixième. Ouais. Donc, si tu termines troisième, c'est ton potentiel match-up. C'est pas bon pour la confiance de te dire que tu as pris. Non. C'est pas les mêmes matchs, tu as des absents, etc. Mais tu as pris 121-84 contre l'équipe que tu es censé jouer au premier tour. Équipe super expérimentée quand toi, tu es une équipe jeune, etc. Ah bon, c'est pas les meilleures conditions pour aborder les playoffs en cas de match-up entre Cleveland et Miami. Alors, on a fait le tour pour l'NBA. On peut peut-être parler un peu de NCAA.
Ouais.
Il y avait toujours la March Madness. March Madness suit son cours. Est-ce qu'il y a des perfs que tu veux mettre en avant, Chai? Je vais arrêter.
Ouais. Donc, chez les gars, on connaît déjà le Sweet 16, du coup, parce que c'est un peu en avance sur les filles. Mais ça m'a fait marrer de voir Shaquille O'Neal parler de Zach Eady, le grand Canadien de Purdue. Cartonne. Qui cartonne. Alors, bon, Purdue, c'est une fac qui s'est fait sortir au premier tour en étant tête de série numéro 1 les deux dernières années. Donc, les gens sont un peu prudents avec lui, enfin, avec Purdue et avec Zach Eady. Mais là, il a fait un troisième match de suite en comptant le match de la saison dernière, du coup, avec au moins 20 points et 3 blocs. Et du coup, le dernier en date, c'était Shaq. Et Shaq lui a dit maintenant, je te surnomme Shaquille O'Neal. Voilà. Et tout ça pour dire
Zach Eady
et voilà, bel honneur. En général, les surnoms de Shaq restent avec le temps. Et donc là, Purdue a logiquement dominé Utah State pour se qualifier au Sweet 16. Purdue qui jouera contre Gonzaga, qui s'est aussi qualifié.
Ouais, gros choc.
C'est une belle affiche. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Duke est toujours en course. Ils ont logiquement battu la fac de James Madison. 30 points de Jared McCain, dont on parlait un peu avec Lohan dans le podcast de présentation, qui a fait un bon match. Et Duke qui affrontera Houston, donc un des favoris. Galéré par contre, qui a dû passer par la prolongation contre Iowa State. Si je ne dis pas de bêtises, que je me confonds. Ouais. Non, contre Texas A&M, pardon.
Texas A&M, ouais.
C'est dans l'autre sens, c'est dans l'autre. Contre Texas A&M, ils ont bien galéré pour gagner. Et il y aura donc un Houston Duke au prochain tour. Sinon, le champion UConn est passé aussi. Ils ont battu Northwestern, double-double du pivot Donovan Klingon qui sera aussi logiquement NBA l'année prochaine.
Je ne me souvenais même plus que c'était UConn qui avait gagné l'an dernier.
c'est ça, c'est UConn champion en titre qui jouera contre San Diego State au prochain tour. Alabama fait... Ouais.
Il y aura Arizona. Arizona qui gagne.
C'est ta fac.
Mon équipe, et ils vont jouer contre Clemson. C'est marrant parce que Clemson, ils ont fait deux upsets. Non, ils ont fait un upset.
Contre Baylor. Ils ont battu Baylor. Ils viennent de battre Baylor. Il n'y a pas eu d'énormes upsets à part Kentucky au premier tour.
C'est NC State, North Carolina State, qui n'a pas vraiment fait deux upsets de suite, mais qui est tête de série numéro 11 et qui est encore en course.
Ouais,
ils ont battu Oakland, qui a battu Kentucky.
Ouais. C'est ça. C'est une fausse tête de série numéro 11. Hein. Ils valent plus que ça au tournoi. Tournoi de conférence, ils avaient éclaté tout le monde. NC State, c'est un faux. Et ils vont jouer contre Marquette, du coup, qui est numéro 2, avec le Tyler Colec dont on parlait, l'espèce de petit phénomène aussi qui sera logiquement NBA l'année prochaine, peut-être dans la loterie aussi. Et donc, il y a un Marquette contre NC State. Et donc, pour les autres affiches, je te dis rapidement les affiches du Sweet 16. Arizona Clemson, UConn San Diego State, North Carolina, qui est toujours là, hein, contre Alabama, ça va être un beau match. Iowa State contre Illinois, c'est une tête de série 2 contre une tête de série 3. Marquette NC State, Purdue Gonzaga, Houston Duke, Tennessee Creighton. Donc c'est l'une de ces équipes-là qui sera championne NCAA à la fin de la saison. Ça, c'est pour les gars. Un mot très rapide sur les filles, parce qu'elles n'en sont pas encore au Sweet 16, mais il y a eu quelques perfs sympathiques. Caitlin Clark. Ouais, alors Caitlin Clark, c'était sur le papier, c'est bien, quasiment triple-double. Par contre, elle était un peu frustrée sur le terrain. Elle s'est un peu embrouillée avec tout le monde, avec l'arbitre, avec son père au bord du terrain. C'était un peu. il y a la pression sur elle, on le sent. Donc bon, là, c'était une formalité pour Iowa quand même au premier tour, mais il va falloir surveiller ça pour la suite. Le champion LSU qui a gagné aussi, avec une petite polémique qui est en train de naître autour de la coach Kim Mulkey, il y a un article du Washington State qui va sortir sur ses méthodes de management. Apparemment, il y a des trucs assez salés. Et je ne sais pas si c'est très. Enfin, le timing est un peu compliqué pour LSU. Donc, on va voir ce qu'il y a dedans, si c'est très, très chaud ou non. Et je voulais dire un petit mot de Duke chez les filles, parce qu'il y a la coach que j'adore par-dessus tout depuis quelques années à Duke. Elles ont fait un upset. Elles n'ont pas une équipe si talentueuse que ça, hein, mais elles ont battu Ohio State, qui est l'une des facs favorites pour le titre, qui était une des facs favorites pour le titre. Et la coach Kara Lawson, qui était. Ancienne très très bonne joueuse WNBA, ancienne assistante au Boston Celtics il n'y a pas si longtemps, et qui fait des merveilles. Je la trouve incroyable, que ce soit dans les speeches, dans la tactique, tout est top. Et j'avais déjà fait cette petite prédiction, mais je pense que à partir du moment où maintenant Becky Hammon n'est plus trop dans le paysage NBA, peut-être que ça reviendra. Je pense que Kara Lawson sera peut-être la première femme à coacher en NBA. Si elle en a envie, j'ai l'impression que tout lui est permis. Que ce soit la sélection américaine en WNBA ou NBA, c'est une coach assez incroyable. Et donc pour finir, Paige Baker, ce que le grand public connaît aussi, a fait un excellent match avec UConn et a logiquement qualifié UConn pour le prochain tour. Je regarde un peu Juju Watkins. Ouais, alors Juju Watkins et USC sous les yeux de la famille Bryant, avec Vanessa et les filles qui sont venues soutenir Juju Watkins qui a marqué 23 points et qui s'est qualifié aussi. Stanford, qui est l'un des favoris, qui a eu beaucoup de mal contre Iowa State et qui a dû aller en prolongation, qui a failli se faire, peut-être pas sortir, ça, ils ont réussi en prolongation, mais ils ont perdu Cameron Brink, problème de faute, leur star, pendant le match. Et du coup, il y a eu 41 points de Kiki Iriafen, qui est une junior, gros talent aussi, et qui a un peu sauvé les meubles pour Stanford. Donc voilà, il n'y a pas encore les affiches du Sweet 16, parce qu'il y a des matchs ce soir et cette nuit, notamment à UConn contre Syracuse, mes deux facs préférées. Ça va être sympa, autour de 23h. Et voilà, donc on vous dira un peu ce que ça donne au Sweet 16 dès qu'on aura les affiches.
Yes, bon, on suivra tout ça. De toute façon, on se donne rendez-vous encore demain. On se retrouvera cet après-midi aussi pour un podcast sur la chaîne Basket Session. Donc n'hésitez pas, on rentrera en profondeur sur un sujet. Donc voilà, ça peut vous intéresser. Et on se retrouve demain pour un nouveau CQFR. Bonne journée à tous.
Ciao.
Ciao, ciao.